en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Anne Fagot-Largeau, qui a été élue à l'Académie des sciences le 12 novembre 2002. Anne Fagot-Largeau est ancienne élève de Normale Sup, agrégée de philosophie, PhD de l'université de Stanford aux États-Unis, docteur et lettres et sciences humaines. Elle a été professeure d'université, elle est professeure honoraire au Collège de France, chaire de philosophie des sciences biologiques et médicales. En même temps, elle a longtemps été médecin psychiatre consultant à l'assistance publique de Paris. En outre, elle a été de 1990 à 1998 membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur des thèmes d'histoire et de philosophie des sciences du vivant. Elle a publié, outre de très très nombreux articles, plusieurs livres, dont « L'homme bioéthique » pour une déontologie de la recherche sur le vivant, « Les causes de la mort, histoire naturelle et facteurs de risque » et, en collaboration avec Daniel Handler et Bertrand Saint-Sernin, un ouvrage intitulé « Philosophie des sciences », un ouvrage qui fait vraiment référence. Son dernier livre vient de sortir, en PUF, en fin janvier 2010, dans la collection « Éthique et philosophie morale ». Il s'intitule « Médecine et philosophie ». C'est un livre d'une très haute tenue intellectuelle, mais dans lequel on trouve des développements aussi actuels que passionnants, par exemple dans le chapitre sur les droits du fœtus et la notion de personne humaine potentielle, dans le chapitre sur la notion de qualité de la vie, dans le chapitre sur la procréation responsable, ou dans le chapitre sur la compassion. Anne Fagot-Largeau, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Le moins qu'on puisse dire est que votre pédigré est impressionnant. Mais tous ceux qui vous connaissent savent que cela n'a en rien entamé ni votre simplicité, ni votre attention aux autres. Alors, je rappelle le principe de notre série L'Essentiel. Cette question récurrente posée à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quelle a été Anne Fagot-Largeau jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel.
Il y en a eu plusieurs. Si vous tenez à ce que j'en choisisse un, je pense qu'il faut que ce soit mon départ aux États-Unis en 1967. J'étais alors assistante de Gilbert Simondon à la Sorbonne. J'étais amenée à faire un peu de philosophie de la psychologie. La psychologie devenait une science. J'ai voulu apprendre la philosophie des sciences. J'ai écrit à l'université de Berkeley. C'était la seule université américaine dont je connaissais le nom. J'ai reçu une réponse très gentille de M. Craig qui me disait « Désolé, je suis en sabbatique l'année prochaine. Allez donc à Stanford et contactez mon collègue Patrick Soupis. » J'ai donc atterri à Stanford sans savoir l'anglais et j'ai appris énormément.
Mais vous deviez y rester un an et en fait vous êtes resté 4 ans.
J'y suis resté 4 ans, ils ont pris le relais de la bourse que j'avais.
Et là, qu'est-ce qu'il y avait de fondamentalement différent par rapport à ce qu'on pouvait connaître en France à la même époque, à la fois dans les attitudes du travail et en même temps dans les références?
Alors la chose la plus importante, c'est sans doute que l'éducation que j'avais reçue en France, y compris pour l'agrégation de philosophie, est essentiellement rhétorique. Tandis que là-bas, j'ai appris ce que c'est que la recherche, la vraie. Par ailleurs, Patrick Soupis était un maître tout à fait magnifique, d'une grande exigence intellectuelle et aussi d'une grande générosité intellectuelle.
Mais alors, ça veut dire, quand vous dites que c'était moins théorique, c'est moins rhétorique, ça veut dire que les élèves et les professeurs travaillaient ensemble sur des cas, sur des...
Les professeurs nous donnaient leurs articles en préparation à corriger.
À vous, les élèves?
Oui.
Là-bas, les références, je veux dire, en termes de philosophie, par exemple. Ce qui m'a étonné quand on a discuté ensemble en préparant cette émission, c'est que Kant, là-bas, c'est pas l'alpha et l'oméga.
Alors, j'ai été très étonné par une ambiance complètement différente en philosophie. Là-bas, c'était Hume, le grand philosophe. Kant était à peu près inconnu. J'ai fait découvrir Kant à mon maître Soupis. Il s'est mis à le lire parce que j'en parlais. Il m'a dit « c'est intéressant ». J'ai aussi été déconcerté là-bas par la grande ignorance des étudiants en histoire de la philosophie d'une façon générale. L'enseignement en France, c'était surtout l'histoire de la philosophie. Et là-bas, ils se posaient vraiment des questions qu'ils entendaient résoudre. C'est-à-dire, à leurs yeux, il y avait en philosophie des questions qu'on devait pouvoir résoudre.
Oui, donc c'est un peu le retour à la philosophie grecque, un peu. C'est une philosophie de la vie courante, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'en France, quand on avait étudié tous les grands auteurs, on pensait qu'il n'y avait plus aucune question qu'on pouvait se poser.
Alors j'aimerais revenir justement sur un autre moment de votre carrière, car ceci donne un certain éclairage sur ce qu'était l'état de l'université en France dans les années 68. C'est votre passage des études de philo à la médecine. Je voulais que vous nous rappeliez un peu le choc que vous avez eu quand vous êtes arrivé. C'était à Créteil, je crois, en septembre 71.
Oui, c'est ça. À vrai dire, j'avais déjà fait la première année de médecine avant. C'était une année très théorique, on n'était pas auprès des malades. L'idée d'aller dans cette très belle faculté de médecine assortie d'un très bel hôpital, à l'époque il était presque tout neuf, l'hôpital Henri Mondor, c'est qu'à la faculté des lettres, nos étudiants ne pensaient qu'à aller faire la bagarre avec la police dans la rue. Rien ne les intéressait véritablement.
Et les conditions de travail n'étaient pas terribles non plus.
Déplorables. Ces années-là, en somme, l'université a été souvent en grève. J'avais envie de retrouver une ambiance de travail. J'ai voulu suivre des cours à la fac de médecine pour m'instruire. Et on ne pouvait pas suivre les cours. Les cartes étaient contrôlées à l'entrée. Donc j'ai pris une carte. Une fois qu'on a la carte, on reçoit les convocations pour les examens.
Et plus de fil en aiguille.
La médecine, c'est très facile, il n'y a qu'à apprendre.
Et vous avez choisi la psychiatrie?
Plus tard. J'aurais voulu faire de la neuro-endocrinologie, mais on ne peut pas tout faire.
Alors, il faut dire que vous êtes agrégé de philosophie, mais en réalité, si vous aviez vraiment eu le choix, dites-moi, quand vous aviez 20 ans, est-ce que vous n'auriez pas plutôt fait des études scientifiques
de
que des études?
Je n'ai pas eu le choix.
Vos parents vous ont dit c'est ça.
Les filles faisaient des lettres et les garçons des sciences.
C'est ça, c'était bon.
Oui.
Bon, il faut y aller, quoi. C'est quand même curieux. On peut aller jusqu'à l'agrégation de philosophie, comme disent les jeunes, sans avoir le trip.
Ah, mais attendez.
C'est venu après.
Non, l'agrégation de philosophie, c'est passionnant. La préparation de l'agrégation, c'est là que vous commencez à vous former votre philosophie vous-même. Je suis resté philosophe d'un bout à l'autre, j'ai toujours vécu de ça d'ailleurs.
Avec passion. Mais je croyais qu'au début, ça avait quand même été plus difficile.
Non, c'est l'enseignement de la philosophie qui a été un peu difficile quand je suis rentré des États-Unis, parce que là-bas, le campus était extrêmement travailleur, sérieux, ce qui ne voulait pas dire qu'on ne faisait pas des grandes manifestations contre la guerre en Cambodge ou au Vietnam.
Est-ce que 68, vu de là-bas, vous a paru beaucoup plus sérieux qu'il n'a pu paraître à certains, vu de France?
C'était différent. Quand j'ai entendu le discours de De Gaulle, je n'ai pas compris. Je l'ai entendu à la radio. Aux États-Unis. Mais il y a eu un 68 là-bas. Et puis, il y avait une underground university à Stanford, une université souterraine, la Free University, pour laquelle on pouvait s'inscrire pour $1 par an, je crois. Et j'ai été aussi une élève assidue de cette université-là. C'était l'époque hippie.
Oui, mais en même temps, vous parliez du Cambodge, il y avait une toile de fond qui n'était pas très très gaie quand même.
Les étudiants avec lesquels j'étudiais étaient soumis au système de la loterie. Et si leur nom était sorti à la loterie, ils devaient aller faire la guerre. À ce moment-là, la plupart du temps, ils ont disparu au Canada, avec la complicité un petit peu de l'université, en fait.
Alors, une autre étape de votre vie, donc, quand vous devenez professeur d'université, après avoir soutenu dans votre doctorat, vous êtes élu à Paris 10, vous devenez professeur d'université. C'est une transformation radicale, devenir professeur d'université, ne serait-ce que par les conditions de travail. Vous avez senti tout à coup que votre vie changeait?
Mon collègue Jean-Luc Marion disait, nous étions
nouvel élu à l'Académie française.
Oui, nous étions professeurs à Nanterre ensemble. Et il disait, nous sommes libres. Un professeur d'université est libre de penser, libre de parler.
Et vous l'avez ressenti? Vraiment, ça, c'est une chose...
Profondément. Je me suis sentie libérée le jour où j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État.
Alors, vous êtes donc femme au Collège de France, il n'y en a pas 36, hein?
Je suis la quatrième.
Question toute simple, qui peut paraître idiote, mais je la pose quand même. C'est facile d'être une femme au Collège de France?
Oui.
Pas de...
Non, pas de problème. Non, c'est une petite communauté, une communauté très agréable, très fraternelle. Mais la femme y était insolite quand j'y suis arrivée.
Et vous l'avez rendue plus accessible, c'est ça?
Maintenant, il y en a trois.
Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre domaine d'activité aujourd'hui?
Mon domaine d'activité, c'est la philosophie des sciences. Et j'ai eu la chance de pouvoir, avec mes deux collègues que vous avez mentionnés, animer un séminaire pendant une dizaine d'années où nous avons eu d'excellents étudiants et doctorants. C'est là que j'ai mûri ma conception de ce que doit être une philosophie des sciences. En fait, nous l'avons mûri ensemble. La première constatation... c'était que la quête scientifique est philosophique.
C'est-à-dire que la science pense, d'une certaine façon?
On peut lire dans Heidegger que la science ne pense pas. En vérité, si on extrait cette citation, c'est injuste parce qu'il s'est repris tout de suite après, mais quand même.
Vous êtes plutôt côté bachelor.
Nous avons toujours jugé que la science pense et nous avons, dans ce séminaire, introduit un dialogue avec des scientifiques qui a été extrêmement fructueux. Ce qu'il y a de commun entre les scientifiques et les philosophes, philosophes des sciences surtout, c'est qu'ils essayent d'acquérir une conception du monde réel, tel qu'il est, de ne pas imaginer des mondes qui ne ressemblent pas à la réalité.
Mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'image Descartes là, sur le grand arbre de la philosophie, dont la science fait partie? C'est toujours d'actualité, ça, ou pas? Ou ça reste aujourd'hui une anecdote?
Alors ça, c'est la question de l'unité de la science. Descartes pensait que la science est une parce que l'esprit humain est un. On peut penser que la science est une parce que le monde est un, mais on n'est pas sûr. Il y en a qui ont rêvé à la pluralité des mondes.
Sur ce plan-là, vous êtes d'accord avec ça, avec cette idée qu'il y a plus une unité qu'une pluralité ?
En fait, nous avons beaucoup enquêté sur la pluralité des méthodes en sciences, etc. Et je crois que c'est un domaine fécond. Non, ce qu'il a fallu réaliser aussi à propos des sciences, c'est que la science ne produit pas que des publications. Très longtemps, la philosophie des sciences a été une philosophie de ce que les scientifiques écrivent. Il suffisait de regarder les articles, la méthode exposée dans les articles, les résultats exposés dans les articles, et on faisait une philosophie de la science qui était linguistique, une philosophie du langage des sciences. Mais les scientifiques ne produisent pas que cela. Depuis le 19e siècle, les chimistes produisent toute une série extraordinaire de corps qui n'existaient pas dans la nature et qui maintenant font notre univers. Ils produisent des êtres qui étaient possibles mais non réalisés dans la nature et qu'ils ont rendus réels. Et la biologie est actuellement en train d'en faire autant. Elle crée par exemple des êtres vivants transgéniques qui fabriquent de l'insuline humaine pour soigner les diabétiques. Ces petites bêtes n'existaient pas auparavant. Donc les questions que la science pose et se pose ne sont pas que des questions de langage ou de méthode, que des questions théoriques. Ce sont aussi des questions pratiques.
Alors vous, vous faites partie de ceux qui semblent regretter qu'il y ait encore en France un très grand fossé entre les sciences physiques et les sciences de la vie.
C'est pas ça exactement. Je crois qu'il faut reconnaître que le modèle de la science dans une tradition qui a été très forte au XXe siècle, c'était la physique théorique axiomatisée. Et on pouvait déduire les résultats d'axiomes. Les sciences de la vie, qui ont connu un essor fantastique au XXe siècle, ne sont pas du tout sur ce modèle. Elles ne sont pas axiomatisées, probablement pas axiomatisables. Il y a eu des tentatives d'axiomatisation, mais elles sont un peu ridicules.
Donc pas de modèle mathématique, quoi.
Peu de modèles mathématiques, plutôt des suggestions mathématiques. En tout cas, pas de théorie entièrement mathématisée. Pour ces raisons, la philosophie des sciences n'est plus tout à fait une. Il y a plusieurs styles dans la philosophie des sciences et je crois qu'ils ont été imposés par la diversité des sciences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une unité de la visée scientifique. La visée scientifique, c'est toujours d'avoir une cosmologie proche de ce qu'est réellement l'univers.
Considérez-vous aujourd'hui le travail d'un philosophe des sciences est par nature un travail communautaire ?
Oui.
Même quand on a comme vous la double formation, puisqu'au fond vous êtes médecin psychiatre et vous êtes philosophe des sciences.
Oui, mais si je suis psychiatre, je ne suis pas biologiste de l'évolution. Ni en philosophie, ni dans les sciences, on ne peut tout connaître. Même dans sa propre discipline au sens étroit, on n'arrive plus à lire toute la littérature. Et donc le travail est forcément aujourd'hui dans un dialogue entre scientifiques et philosophes et entre philosophes entre eux.
Et ça se passe bien, ça existe,
ça existe, ça se passe bien. L'idée de communauté scientifique est devenue complètement familière maintenant. La communauté philosophique, au sens d'une communauté de travail philosophique, c'est plus difficile à trouver. Les philosophes ont longtemps eu l'idée que le philosophe travaille seul, isolé. Oui.
Comme Descartes le suggérait d'ailleurs.
Comme Descartes le suggérait.
C'était sa grande idée. Alors, pour vous, philosophe des sciences de la vie, des sciences du vivant, on a un peu l'impression qu'aujourd'hui, la grande question, c'est non seulement de définir, de discerner ce que sont les frontières de l'impossible, mais aussi, de plus en plus, d'évaluer de ce qu'est le non-désirable. Quoi. Vous êtes sur des sujets très brûlants pour nous.
Dans la mesure où les sciences ont acquis une capacité créative, il y a un jugement à exercer sur ce qu'il est désirable de créer et de placer dans le monde où nous vivons. Et ce qui n'est pas désirable. Alors on aurait pu se dire que la bombe atomique n'était pas désirable, c'est une création des physiciens. Ce qui a déclenché d'ailleurs au milieu du XXe siècle un mouvement de réflexion éthique chez les physiciens, éthique et politique. Ensuite, la médecine et la biologie ont découvert énormément de possibilités naturelles, de possibilités de jouer avec la génétique, par exemple, dont on doit se demander s'il est désirable d'en faire quelque chose, parce que ça peut être très positif.
Alors, on passait aux antibiotiques, la contraception,
oui,
la procréation médicalement assistée, tout ça.
Oui,
quoi.
Bien sûr. On peut se demander aussi s'il n'y a pas des choses dont il faut s'abstenir de les utiliser.
Vous pensez à quoi, là ? Par exemple, les OGM, toutes ces choses-là ? Non, c'est pas ça.
Oh, les OGM, on en fait toute une montagne, c'est pas grave.
C'est pas grave. Merci de nous le dire. Alors, dans votre travail, vous êtes évidemment amené à vous poser les questions essentielles, ça va de soi. Mais est-ce que ça ne vous donne pas un peu le vertige, parfois, quand vous vous posez en tant que philosophe des sciences, une question comme celle-ci, apparemment toute simple. Qu'est-ce que la vie ? Vertigineux, non, quand on est philosophe des sciences, d'être face à une question pareille.
C'est une question qui se pose depuis le début de la philosophie. C'est une question aristotélicienne aussi bien. Aristote disait, à quoi est-ce qu'on reconnaît ce qui est vivant ? Ça bouge tout seul. Par exemple, le grain de blé, si vous le laissez tomber par terre, il va germer tout seul. Ce qui n'arrive pas aux cailloux. C'est une différence, il y en a beaucoup d'autres. Mais se pose aujourd'hui la question de savoir quelles sont les formes de passage de la chimie à la biologie, c'est-à-dire du non-vivant au vivant.
Et là-dessus, on avance ? On a aujourd'hui des éléments
là-dessus, on a des éléments, on n'y est pas encore. Ça s'appelle la biologie de synthèse.
Alors, est-ce que, d'un point de vue de philosophe des sciences, est-ce qu'aujourd'hui, c'est extravagant de se poser la question de savoir si les lois de la vie qui régissent notre planète sont extrapolables à d'autres planètes qui sont dans des galaxies lointaines ?
On ne peut pas répondre à cette question tant qu'on n'a pas vu.
Donc on peut se la poser ?
Ah oui, bien sûr.
Il faut se la poser.
Actuellement, on en est venu à penser qu'il est très vraisemblable que la vie existe sur d'autres planètes, mais elles sont très très loin. J'en avais discuté avec un de mes collègues du collège qui est astronome et qui cherche la vie. Je lui ai demandé « qu'est-ce que vous cherchez ?» Il m'avait dit « je cherche du vert ».
Du vert.
Du vert, la chlorophylle. C'était une plaisanterie. En fait, il s'est repris, il m'a dit « on cherche de l'eau liquide, qui est une condition de la vie, mais qui n'est pas la vie ». En réalité, en cherchant la vie dans l'univers, on n'est pas sûr exactement de ce qu'on cherche. On ne peut pas jurer qu'on trouvera la même. On en trouvera peut-être d'autres formes complètement. Pour l'instant, on est dans les hypothèses.
Ça veut dire que d'un point de vue scientifique, on ne peut pas récuser aujourd'hui l'hypothèse de l'existence de petits bonshommes quelque part à des milliards de milliards de milliards d'années-lumière
ou... De petits bonshommes ou de petites bactéries.
On ne peut pas dire scientifiquement non.
Ni oui.
Ni oui, mais ni non.
Tant qu'on n'a pas constaté.
Mais vous pensez qu'on va progresser ? C'est à l'échelle de quoi ça ? Il faut un siècle, deux siècles, il faut...
Le 21e siècle devrait nous apporter quelques lumières là-dessus, oui.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, on va élargir encore les perspectives, bien que là nous ayons quand même un peu ouvert. À votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de nos sociétés, qu'est-ce qui sur ce plan-là, Anne Fagot-Largeau, vous paraît essentiel à dire aujourd'hui, hein, si vous aviez une chose à dire, avec la part de jeu que ça implique, une chose à dire ?
Alors bien sûr, là il faut être modeste, hein, chacun a sa petite vision
oui,
du monde.
Oui.
De mon point de vue, je dirais, puisque je suis médecin, que le XXe siècle a connu un essor extraordinaire de la médecine, et d'une médecine qui est devenue de plus en plus scientifique. Et ça a été accompagné par la constitution de systèmes de santé assez performants qui ont assuré l'accès de tout le monde aux soins médicaux. On a même parlé de droit à la santé. Ce souci des gouvernements pour la santé des populations est un héritage de l'hygiénisme du XVIIIe et XIXe siècle. Mais ça a été, au XXe siècle, une réussite magnifique, avec la découverte de médicaments ou de procédures chirurgicales ou autres qui traitent véritablement et qui guérissent les maladies, comme les antibiotiques ou, dans ma discipline, les psychotropes. Tous les médicaments avec lesquels on se propose de soigner aujourd'hui les malades psychiatriques ont été découverts dans les années 1950 et ils ont rendu d'extraordinaires services. Ils ont beaucoup amélioré la qualité de la vie curative. Alors, en psychiatrie, pas complètement. Mais au moins, elle a amélioré la qualité de la vie des malades. Il me semble que le XXIe siècle ne sera plus le siècle de la médecine et de la gloire de la médecine, mais plutôt le siècle de l'écologie. On voit ça démarrer. On est en train de s'apercevoir que la planète sur laquelle nous vivons et qui nous nourrit est malade, qu'elle a besoin de soins, que nous l'avons dénaturée. Nous prenons conscience actuellement de nos responsabilités à l'égard de cette planète. Et nous essayons d'y remédier. Donc je vois le 21e siècle comme un siècle de la médecine de la planète.
Après la médecine de l'homme, quoi.
Voilà.
C'est ça la grande transformation. Alors, il n'est pas certain que notre système de santé ait beaucoup à gagner à ne plus être en première ligne des priorités.
Notre système de santé était très performant, mais la médecine est devenue de plus en plus chère. Notre système de santé actuellement nécessite un remaniement profond, je crois. Il est obsolète. Seulement, on ne veut pas l'avouer. Et donc, on le modifie discrètement, sans entreprendre les réformes de fond que peut-être il faudrait faire. Mais ça, c'est toute une discussion qui dure depuis des années.
Pour dire les choses très très crûment, vous regrettez qu'on mette surtout l'accent aujourd'hui sur les économies ou pas ?
Je regrette qu'on ait trop mis l'accent sur la médecine curative et qu'on ait délaissé beaucoup la prévention. Bien sûr, les médecins ne sont pas toujours tellement favorables à la prévention parce que ça tue
ouais,
le métier.
Oui.
Mais sur les méthodes de prévention, en ayant très peu de moyens médicaux, le 19e siècle avait beaucoup fait. et avait réussi, par exemple, à faire reculer la tuberculose avant qu'on ait le moindre traitement de la tuberculose, par la prévention.
Mais vous-même, vous connaissez donc très bien les hôpitaux. Franchement, est-ce que la situation actuelle est malsaine? L'ambiance, le climat de travail? Est-ce qu'il n'y a pas une régression par rapport à ce que...
Oui, la situation actuelle est désemparée parce que je ne travaille plus à l'hôpital depuis 5 ans. Donc, je ne suis pas dans la dernière révolution, si on veut dire. Mais à l'hôpital, actuellement, les gens sont désemparés parce que les suppressions de postes sont faites à mesure, comme on dit, au fil de l'eau, à mesure que les gens partent en retraite. Et donc, il y a des services dans lesquels il y avait plusieurs personnes du même âge qui partent en retraite en même temps, et ces personnes ne sont pas remplacées, et le service s'écroule. Donc, ça demanderait à être mieux réfléchi.
Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel, pour vous, Anne Fagot-Largeau, quelle est aujourd'hui la plus grande hypocrisie de notre temps? Avec, encore une fois, je le dis, la part de jeu qu'il peut y avoir dans cette question.
Je n'aime pas le mot hypocrisie.
Pourquoi? Parce que ça
dire
renvoie...
Dire hypocrisie, c'est avoir l'air de penser qu'on nous cache quelque chose, qu'il y a un complot quelque part. À mon avis, si hypocrisie, il y a ceux qui trompent les autres, se mentent à eux-mêmes et se nuisent à eux-mêmes. Je n'aime pas trop l'hypocrisie. Cela
dit, on soupçonne trop dans notre société, vous récusez ça?
Oui, on a tendance à soupçonner, à accuser les autres.
C'est facile, quoi.
Ça mène pas à grand-chose.
Mais si vous aviez quand même à répondre à ma question...
Je vous dirais les droits de l'homme. C'est politiquement incorrect, mais je l'affirme. J'ai relu tout à l'heure, avant de venir, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la déclaration française qui dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». En fait, ça s'appliquait aux citoyens masculins et pas aux citoyens féminins.
Et d'une.
Ensuite, la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle commence, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
C'est beau.
Eh bien, je dis que, pour ne pas accuser les autres, la France... Notre pays, la France des droits de l'homme, il fait aujourd'hui assez mauvais d'y vivre si on est un étranger, un basané, un demandeur d'asile, un sans-papier, un adolescent des banlieues. C'est-à-dire, bien que la Déclaration des droits de l'homme dise que nous sommes tous égaux, en réalité, il y en a qui sont plus égaux que d'autres, comme on dit. Et quand on voit que les étrangers, immigrants, clandestins, on les enferme dans des centres de rétention, c'est pas l'égalité proclamée par la Déclaration universelle, ça. Et le respect de la dignité. Donc, avant d'accuser les Chinois et autres pays de mépriser les droits de l'homme, on devrait un petit peu regarder chez soi.
Donc, on se donne trop facilement bonne conscience, quoi.
On n'a plus très bonne conscience, je pense. Non.
Bah, c'est déjà mieux. Par exemple, vous qui êtes donc universitaire, entrez dans les grandes écoles, là aussi, il y en a qui sont plus égaux que d'autres.
Il y en a qui sont bien plus égaux que d'autres, oui. Alors, bien sûr, on sait que si la révolution de 89 a aboli les privilèges, en réalité, les Français n'ont pas cessé de reconstituer des privilèges et d'essayer de s'approprier chacun à sa manière des privilèges. Et c'est probablement une vérité universelle, les gens veulent des privilèges. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense qu'on pêche par mépris pour un certain nombre d'étrangers, ou jugé-t-elle.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel, la changement de ton. Quel est l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir?
Alors là, je vais vous dire paradoxalement, Copenhague ou Porto Alegre. Il faut reconnaître que la conférence de Copenhague a été un échec et que Porto Alegre, qui s'est...
Il faut rappeler ce qu'était Porto Alegre, parce que je pense que beaucoup de gens ont oublié.
Le forum social mondial qui a eu lieu au mois de janvier, le mois dernier. C'est un événement raté,
2010, oui.
Comme Copenhague, largement autant que Copenhague. Mais il me semble qu'à travers ces grands rassemblements planétaires, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui d'abord le besoin ressenti d'une gouvernance mondiale. Ça, c'est pas une nouveauté, puisqu'on avait inventé la Société des Nations avant la Seconde Guerre mondiale et qu'on a inventé l'Organisation des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est probablement nouveau, c'est que ce besoin d'une gouvernance mondiale est soutenu maintenant par une opinion mondiale. Il y a une société civile mondiale qui est en cours de formation, qui est probablement favorisée par l'Internet, peut-être même par Facebook, et qui fait qu'on peut espérer que ce qui se réglait par la guerre, ça a toujours été l'espoir des organisations internationales, ce qui se réglait par la guerre pourrait se régler par la discussion.
Mais est-ce que vous pensez que, étape peut-être suivante, chacun se dit aujourd'hui, il faut que je me prenne en main, je suis responsable, quoi, et non pas simplement attendons une gouvernance mondiale et qui se débrouille.
Alors, vous avez sûrement remarqué que, à propos du séisme à Haïti récemment, l'Organisation des Nations Unies était sur place et exerçait une fonction de gestion depuis plusieurs années. Et les grandes puissances ont tendance à cantonner l'Organisation des Nations Unies dans des petites tâches. Et on a vu les grandes puissances là arriver avec leurs gros bras et leurs gros matériels en disant « Vous allez voir, nous allons tout faire ».
Il faut dire quand même que l'Organisation des États-Unis n'était pas extrêmement efficace à Haïti.
Les Nations Unies ?
Oui,
bah,
dans les premiers jours.
Ils étaient sur place, ils ont eu des morts aussi. Mais je pense que cette marginalisation des Nations Unies, est-ce qu'il faut remplacer l'Organisation des Nations Unies par autre chose ? Ou bien est-ce que là serait une solution possible, mais on l'empêche de fonctionner parce que cela gêne un certain nombre de pays qui préfèrent faire la loi eux-mêmes sur la planète ? Ça se discute. De toute façon, je pense que l'évolution vers une société civile mondiale est une bonne chose et que pour que ça se confirme, il faudrait qu'on veille à ce que tout le monde accède à l'éducation et en particulier les filles, puisqu'il y a un certain nombre de pays dans lesquels les filles ne peuvent pas accéder à l'éducation.
Et Internet dans cette dimension-là, c'est important aussi ?
Bah justement, un minimum d'éducation est indispensable aussi pour accéder à l'Internet.
Ouais, enfin, quand même, on voit des gens qui font des sauts de génération grâce à Internet.
Oui, mais je vous dit, il faut d'abord avoir appris à lire.
Et puis, l'inconvénient d'Internet, vous m'en parliez l'autre jour, c'est peut-être que la mondialisation véhiculée par le net, c'est une mondialisation anglophone.
Oui, mais ça n'est pas forcément vrai. Ça peut être une mondialisation multilangue. Ça dépend de nous, ça.
Alors, dans les événements qui peuvent porter espoir. Je voudrais quand même évoquer avec vous, que vous nous disiez sur ce plan-là, ce que vous en pensez. Donc, vous êtes philosophe des sciences de la vie, vous avez fait partie du Conseil consultatif national d'éthique. Là, nous sommes en plein débat sur le renouvellement des lois bioéthiques, loi de 2004 en particulier. Alors, il y a à la fois les discussions de la mission parlementaire sur la révision de la loi, et puis il y a le rapport d'évaluation de l'application de la loi de 2004. Rapport réalisé sous la conduite d'un député de droite, M. Vialat, d'un député de gauche, M. Claes, qui sont deux hommes
remarquables, qui font un excellent travail.
C'est rare qu'on dise ça des députés, mais là.
Oui. Je témoigne.
Vous témoignez. Bon, dans ces domaines-là extrêmement compliqués, si vous aviez une ou deux choses à faire passer pour nous mettre les choses en perspective, par rapport à ces lois de 2004, vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse ? Est-ce qu'on corrige beaucoup ? Est-ce qu'on ajoute un peu ? Mettre un peu en perspective ça.
Ce qui ressortait de la dernière audition réalisée par messieurs Claes et Vialat.
Ça, c'est le rapport d'évaluation sur l'application de la loi.
C'est que, en conservant les grandes lignes de la loi, on pourrait proposer une modification de ce qui touche à la recherche sur l'embryon et les cellules souches humaines. Parce qu'il y a eu dans ces domaines de très rapides avancées scientifiques dont la loi ne pouvait pas tenir compte puisqu'elles n'étaient pas faites. Ce qui serait souhaitable, c'est là de rendre la loi plus générale, plus légère, et de laisser la gestion des avancées scientifiques au jour le jour ou à l'année par l'agence de biomédecine, puisque la loi de 2004 a créé l'agence de biomédecine.
Et elle fonctionne très bien, cette agence ?
Ah oui, c'est une des réussites de la loi de 2004, ça.
Qu'est-ce qu'elle fait, au fond, cette agence ?
Dans le domaine de la recherche sur l'embryon et les cellules souches humaines, elle examine tous les projets de recherche. Ils sont soumis à l'autorisation par l'agence.
Donc c'est un rôle de veille très important.
Un rôle de veille, oui, et de veille au fur et à mesure.
Et les chercheurs jouent le jeu ?
Complètement. Les chercheurs ont accepté un encadrement qui est très très strict et un peu tatillon, il faut dire. L'agence a constitué des dossiers d'une forme que les chercheurs doivent remplir, etc. Mais dans l'ensemble, la coopération a bien marché. L'agence continue de surveiller les projets en cours. Bon, il faudrait sans doute aussi que la loi de 2004 ayant autorisé la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, une certaine sorte de cellules souches embryonnaires, pour 5 ans et de façon provisoire, il faudrait que la loi tranche. Est-ce qu'elle l'autorise ou non ?
Il y a donc le rapport sur l'évaluation de l'application de la loi. Et puis, il y a le rapport de la mission parlementaire qui vient là d'être présenté par Jean Leonetti. Là-dedans, il y a des propositions extrêmement précises. Vous-même, est-ce que vous êtes d'accord ? Je prends 2 points qui vont certainement toucher le grand public. Le premier point, les députés maintiennent l'interdiction des mères porteuses. Vous êtes d'accord avec cette proposition ?
Non.
Non ? Pourquoi ?
Je ne pense pas que ça deviendra une épidémie. Je pense que dans quelques cas particuliers, il serait bon d'autoriser les mères porteuses.
Ça ne va pas devenir un commerce généralisé.
Là aussi, on peut l'encadrer, on peut mettre des conditions, mais je pense qu'il n'est pas justifié moralement de l'interdire complètement.
Alors, deuxième question qui va évidemment beaucoup toucher l'opinion publique aussi. Donc, les membres de cette mission continuent de réserver la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels.
Là non plus, je pense qu'on est beaucoup trop directif. Je croyais que vous vouliez parler de l'euthanasie.
Eh bien, attends, j'allais y arriver, parce que ça, c'est plus délicat.
C'est plus délicat, oui, parce qu'un pays dans lequel l'euthanasie serait à portée de la main pour tout le monde serait un pays qui dirait à ses concitoyens, le jour où vous êtes un peu trop malade ou que vous devenez inutile, allez, dehors, prenez la décision de partir. Ça pourrait créer une espèce de suicide civique. D'un autre côté, il y a des cas dans lesquels ce que le Comité national d'éthique avait appelé l'exception d'euthanasie se justifie tout à fait. Donc aussi, il me semble que là, la loi devrait être plus souple et la procédure d'encadrement fonctionner mieux.
On ne va pas vers ça, apparemment.
Non.
Non. Donc vous reviendrez l'année prochaine pour nous reparler de ça. Deux dernières questions qui sont dans notre série, qui sont des questions très personnelles, et merci d'accepter d'y répondre. Donc la sixième question, quel a été le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté, ou du moins avez-vous tenté de le surmonter ?
Oui, c'est délicat ça. Je dirais que jeune, on croit que l'amour fait vivre, c'est vrai. On a besoin d'amour pour goûter la vie, mais ça ne suffit pas pour vivre. J'aimais beaucoup mon mari, je suis médecin, il est tombé malade, je l'ai accompagné comme j'ai pu, mais il est mort.
Et dans des conditions atroces, en plus, et de grandes souffrances quand même.
Bon, des conditions hospitalières un peu difficiles, oui. Disons que je touche là, en fond de tableau, à l'échec inhérent à la pratique médicale, si vous voulez. La médecine aujourd'hui fait des merveilles. Vous faites un infarctus, on vous emmène en ambulance dans la première clinique venue, on vous pose un stent, et le soir vous êtes chez vous à la maison, guéri, enfin guéri, comme si rien ne s'était passé, presque. Donc c'est merveilleux. La médecine a réussi à guérir un certain nombre de pathologies et à améliorer considérablement la qualité de la vie. Mais elle n'a jamais empêché les gens de mourir, ni souvent de souffrir.
Mais par exemple, les soins palliatifs qu'on met tellement en avant, vous considérez que là-dessus, on ferait mieux de mettre un bémol et ne pas trop en parler dans la mesure où les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances pour l'instant ? Vous pensez cela ou pas ?
C'est pas ça, c'est que les soins palliatifs à l'heure actuelle sont une faveur qu'on accorde à un petit nombre, c'est pas à la portée de tout le monde tout de même.
Et quels sont les critères de...
Eh ben tout le monde ne meurt pas à l'hôpital d'abord. Et d'autre part, tout le monde qui meurt à l'hôpital ne trouve pas en face de soi un service de soins palliatifs ou des médecins qui pratiquent les techniques en soins palliatifs. Donc il y a une grande inégalité là-dessus. Mais j'aurais voulu élargir un peu la question, là, parce qu'il n'y a pas que la mort à laquelle on se heurte et qui est l'échec. D'abord, on fait en médecine de grands efforts pour que les gens survivent, mais survivre pourquoi ? Il faut en faire quelque chose de la vie après. D'autre part, il y a aussi des nécessités sociales contre lesquelles on ne peut pas aller ou contre lesquelles on devrait essayer d'aller, mais on s'y heurte. Lorsque j'étais prof de lycée à Douai, dans le Nord, où j'ai eu d'excellents élèves, j'en ai un très bon souvenir, j'ai eu une année une jeune fille qui était géniale. Enfin, je la trouvais extraordinaire. Elle a eu le prix d'excellence. Bon. Et je l'avais fortement encouragée, poussée même, à aller à l'université, à faire des études supérieures. Ses parents étaient des immigrés polonais et mineurs de fond. Et elle n'a pas tenu le coup. La distance qu'elle creusait à l'égard de sa famille était trop grande.
Elle avait l'impression de trahir sa famille d'une certaine façon.
Probablement, je ne sais pas exactement. Mais je crois qu'elle est devenue institutrice, ce n'est pas une catastrophe.
Mais, non, mais par rapport aux espoirs qui étaient nés.
Il y a des distances qu'on ne peut pas arriver à parcourir. C'est une espèce d'échec. Si elle était mieux née, elle aurait été plus loin.
Vous, votre geste, il fallait quand même le faire, votre geste. C'est Camus et le mythe de Sisyphe, quoi. Il y a la pierre à rouler.
Je me suis reproché de l'avoir poussée. Elle n'avait pas d'ambition.
Ah, elle ne l'avait
mais
pas.
Mais elle ne savait pas. Elle ne savait pas que ça existait. Elle s'est inscrite à l'université. Non, c'était trop, probablement. Donc il y a aussi des nécessités sociales qui induisent l'échec alors que ça ne devrait pas.
Autrement dit, pas d'amour sans réalisme, quoi.
Voilà.
Et d'hyper-réalisme.
Mais c'est dur de se dire ça.
Ouais, la même chose, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'hypocrisie des droits de l'homme, quoi. On est sur le même registre, quoi.
Ah, il faut toujours viser le mieux, l'idéal, hein, mais l'idéal n'est pas toujours au rendez-vous.
Septième et dernière question de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Alors ça, c'est une question dure, parce que je viens de prendre ma retraite. Je suis juste dans le processus de prise de retraite. Et ça vous enlève toute motivation.
C'est vrai, vous avez l'impression que vous êtes touchée dans votre qualité d'être humain, de citoyenne, de tout. Enfin, vous êtes... C'est une remise en cause.
J'étais fière, moi, de gagner ma vie en travaillant. Prendre sa retraite, c'est passer de actif et responsable à inactif, improductif ou considéré comme tel. C'est ce que vous lisez, vous devenez un poids, une charge pour la société, puisque vous êtes pensionné. Et j'ai là-dessus une petite histoire d'un collègue. C'est un collègue qui était doyen de la faculté de médecine et qui avait l'habitude d'aller souvent au ministère pour régler des questions pratiques. Il avait donc ses entrées au ministère, il connaissait les gens. Et quelques temps après sa prise de retraite, quelques semaines ou mois, pas très longtemps après sa prise de retraite, il a besoin d'aller au ministère de nouveau. Donc il arrive comme d'habitude. La procédure est différente, papier d'identité, et puis on le fait attendre. Il s'étonne, il voit passer un appariteur qu'il connaissait et il lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que j'attends ?» Et l'appariteur lui répond « Mais monsieur, vous n'êtes plus rien. » Texto. J'ai fait parler les collègues autour de moi qui prennent leur retraite et je vois qu'ils essayent d'être utiles. Ils essayent de continuer d'être utiles, de se dévouer. Beaucoup se dévouent bénévolement à des associations, par exemple. Et moi-même, j'ai envisagé de reprendre du travail médical bénévolement dans une organisation non gouvernementale. C'est certainement possible. J'en ai parlé l'année dernière à mon patron américain qui m'avait fait l'amitié de venir assister à mon dernier cours au Collège de France.
Ça, c'est extraordinaire. Hein. Oh, 85 ans.
85
il est venu comme ça, anonymement, il s'est
mis au
premier rang.
85 ans, il travaille toujours. Et sur le campus de Stanford,
il a un laboratoire,
une unité de recherche où il donne du travail à une centaine de personnes.
Et ça, c'est impossible en France.
En France, vous passez dans les improductifs. Vous ne pourriez pas faire ça en France.
C'est-à-dire que vous avez gardé un lien avec le Collège de France, par exemple. Vous êtes professeur honoraire, vous avez encore un...
Oui, oui, au Collège de France, on est très doux avec les retraités.
C'est-à-dire
que
vous avez un bureau
quelques années, peut-être. J'ai conservé cette année un demi-secrétaire, oui.
Mais votre labo, par exemple, au Collège de France?
Moi, je n'avais pas de labo. Ceux qui ont un labo le perdent. Oui.
Le père. Oui, oui. Et à l'université, il ne reste plus rien, là.
Oh, l'université, c'est bien pire.
C'est du jour au lendemain, rien.
Du jour au lendemain, vous êtes à la porte. Vous n'existez plus.
Mais alors, pourquoi n'êtes-vous
vous
pas parti?
Vous disparaissez même sous des listes d'adresses. Quand j'ai quitté Paris 1, j'ai disparu de la liste d'adresses et je ne suis plus informé de rien de mon ancien département.
Vous n'existez plus, quoi.
Voilà. Alors, essayez d'être utile pour moi. Je vous ai dit, je vais refaire de la médecine. C'est utile.
L'idée de retourner aux États-Unis, par exemple.
Mon patron américain m'a dit, ne fais pas ça. D'autres peuvent le faire. La médecine, fait quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Écrit. Il m'a demandé si je voulais venir enseigner aux États-Unis. Ce n'est pas sûr que je veuille aller enseigner aux États-Unis. Beaucoup de collègues font ça. Aux États-Unis, au Brésil, au Zimbabwe, partout dans le monde. Au Maroc.
Mais aux États-Unis, c'est plus prestigieux quand même.
Oui, ça dépend du prestige de l'université.
Si vous allez à Princeton.
L'université fédérale de São Paulo, c'est pas mal non plus. Hein. Il y en a qui sont là-bas.
Mais donc ça, vous l'envisagez pas?
Pour l'instant, je me propose d'écrire, puisque vous avez dit que je viens de publier un livre. Je me propose aussi d'essayer d'être utile à ma discipline psychiatrique. La psychiatrie, parmi les disciplines médicales, est une discipline déshéritée, dans laquelle il y a des postes vacants.
Des postes de professeurs vacants, des postes de médecins vacants.
Dans le service public.
Dans le service public.
Oui, oui.
Paris comme province, enfin partout.
Oui, il y a un quadrillage du territoire. Il y a des postes partout sur le territoire français de psychiatres dans le service public.
Et ça manque.
Et ça manque. Et il y a des étrangers dans ces postes qui n'attirent pas les médecins français. On peut le comprendre, c'est une profession ingrate aussi. Les malades sont des chroniques. On revoit les mêmes, ils rechutent.
Puis on n'a pas fait beaucoup de progrès depuis plusieurs décennies, non?
C'est énormément de progrès. Alors justement, depuis 2-3 ans, j'avais essayé d'animer un petit séminaire du Collège de France.
Vous aviez fait un colloque aussi, non?
Sur les méthodes de recherche en psychiatrie. J'ai fait un colloque avec Marion Le Boyer et les gens qui travaillent autour d'elle. Je pense que ça vaudrait la peine de refaire quelque chose, un colloque ou je ne sais pas. Je ne sais pas la forme que ça prendra parce que je dois consulter mes collègues.
Mais vous, par exemple, comment vous réagissez au fait qu'aujourd'hui, en psychiatrie, il y a encore une division, on peut le dire, entre une psychiatrie analytique, au fond, post-freudienne, et une psychiatrie médicamenteuse, quoi. Est-ce que c'est normal, cette opposition entre les deux? Est-ce que c'est spécifique à la France?
La plupart des psychiatres pratiquent les deux. en ayant l'attitude, ma main droite ignore ce que fait ma main gauche, si j'ose dire. C'est-à-dire, d'une main, je prescris des antidépresseurs et de l'autre, dans le reste de la consultation, je fais un peu de psychothérapie. On sait que les deux ensemble marchent mieux que l'un tout seul. Donc on fait les deux, mais on ne sait pas très bien pourquoi ça marche, comment ça marche. On peut espérer dans la recherche qui va se faire ou qui se fait déjà dans les neurosciences. Mais pour le moment, la psychiatrie est en médecine une discipline qui est restée un petit peu en marge du progrès médical, qui représente un immense poids de souffrance pour les malades, un certain découragement des soignants en même temps. Je pense que j'aimerais essayer de faire quelque chose parmi beaucoup d'autres qui essayent.
Bon, ben bon courage pour cela. Et avant de conclure, une autre question très personnelle. Vous soulignez tout à l'heure l'importance symbolique de Copenhague et aujourd'hui d'une médecine de la planète. Donc, tout jeune enfant, vous avez vécu les privations de la guerre en plein. Aujourd'hui, avez-vous l'impression que cela vous aura au moins aidé à mieux comprendre certains enjeux, cette enfance de guerre ?
Alors justement, quand vous me demandiez en commençant de dire quel a été le moment essentiel dans ma vie, je vous ai dit, il y en a plusieurs. Je pense que le moment d'une enfance pendant la guerre a été très influent sur la suite. Ne serait-ce que parce qu'actuellement, je ne jette jamais une feuille de papier qui est blanche d'un côté, sans avoir utilisé le côté blanc.
Il paraît que vous avez réussi à imposer ça au Collège de France, c'est
non,
vrai
non,
ça
j'ai réussi.
Le recyclage.
Non, le recyclage du papier. J'ai réussi.
C'est vous qui l'avez... Enfin,
pas toute seule. Hein.
On m'a dit que c'était vous qui avez provoqué une bagarre là-dessus au Collège de France.
Ce n'était pas une bagarre, mais il fallait l'organiser. Et j'étais très choquée, déjà à l'université, très choquée qu'on gâche tellement de papier sans recyclage aucun, sans effort de recyclage. Mais maintenant, les universités s'y mettent aussi. Mon ancienne université parisienne s'y est mise, je crois, Nanterre aussi. Et il y a eu une enfance pendant la guerre, un démarrage professionnel en enseignant au lycée avant 1968 et dans un pays de mines, où les mines de charbon fonctionnaient encore. Ça aussi, ça vous marque. J'ai eu l'occasion de descendre dans une mine de charbon. Et c'est une expérience que j'oublierai jamais. J'ai passé une journée là-dedans.
Quand vous avez l'impression que c'était quoi ? C'était le monde de l'esclavage ?
On y marche à quatre pattes. Non, c'est le sentiment d'oppression que ça donne. D'avancer en rampant presque dans une galerie qui est trop basse pour que vous puissiez vous mettre debout. C'était des conditions de travail terribles. Il y a eu aussi... J'ai prêté le serment d'Hippocrate. C'est important dans une vie, ça.
Mais dans tout ça, pour revenir à la guerre, est-ce que cette expérience-là, et surtout la réflexion que vous avez pu mener par la suite sur ces années-là, est-ce que ça vous a donné un sentiment plus important, enfin, je dirais viscéral, de la hiérarchie des importants, justement, entre les choses ?
Ça peut être, mais je ne pense pas que je puisse dire que j'ai réfléchi sur la guerre. J'ai vécu en temps de guerre, mais pas au milieu des combats, bien sûr.
Oui, mais enfin, vous avez connu le marché noir, la faim, la mort, tout ça, vous l'avez connu, quand même.
Oui.
Et en même temps, à côté de ça, une nature, quand vous étiez...
J'avais 6 ans, et je me disais que les grandes personnes avaient tort d'en parler. On comprenait, nous, les enfants.
C'est-à-dire ?
On comprenait ce qu'elles voulaient dire à voix basse pour qu'on ne comprenne pas.
Mais est-ce que quand vous voyez ça, vous dites que par moment, au fond, nous...
Je pense que toute personne qui a vécu une guerre ne se dit plus jamais ça. On s'est dit ça après la Première Guerre mondiale et puis on a recommencé à ce compte.
Mais il vaut mieux se le dire quand même.
Il vaut mieux se le dire.
Mais est-ce que par moment, vous avez l'impression que nous rentrons dans l'avenir comme des crabes, c'est-à-dire à reculons ?
Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous n'entrons pas dans l'avenir, ni vous ni moi. Mais les jeunes d'aujourd'hui entrent dans l'avenir sans savoir. La transmission ne se fait pas très bien. La transmission d'une génération à l'autre se fait mal. Et puis, on ne peut pas transmettre une expérience. Donc, les plus jeunes doivent tout réapprendre. Quand ils n'ont pas vécu, ils ne savent pas vraiment.
Mais nous non plus, on ne savait pas.
Certes.
Donc, on en revient à Sisyphe, quoi, le rocher.
Oui, oui.
Ainsi s'achève cet essentiel donc consacré à Anne Fagot-Largeau, membre de l'Académie des sciences, et qui vient de publier, je le rappelle, au PUF, fin janvier 2010, un livre intitulé « Médecine et philosophie », un livre de très très haute volée intellectuelle, mais dans lequel on trouve, je le rappelle aussi, des développements aussi actuels que passionnants. Anne Fagot-Largeau, merci, et merci à tous et à toutes d'être avec nous.
Merci à vous.